Joseph, le 19 février 1985.
Comme nous allons entrer demain dans le carême, vous comprenez bien que ce soir, il est bon d'entrer un peu dans l'esprit de ce temps du carême. Vous verrez dans la famille chrétienne, ce bon journal, qui vous rappelle carême, jour de pénitence. Et on vous rappelle tous les numéros du code. Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence, chacun à sa façon. Mais pour que tous soient un en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s'adonneront d'une manière particulière à la prière, pratiqueront des œuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres et surtout en observant le jeûne et l'abstinence selon les canons suivants. Canon 1250. Les jours et temps de pénitence pour l'Église tout entière sont chaque vendredi de toute l'année et le temps du carême. Canon 1251. L'abstinence de viande et d'autres ou d'autres nourritures, selon les dispositions de la conférence des évêques, sera observée chaque vendredi de l'année, à moins qu'il ne tombe l'un des jours marqués comme solennité. Mais l'abstinence et le jeûne seront observés le mercredi des cendres et le vendredi de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Canon 1252, sont tenus par la loi de l'abstinence les fidèles qui ont 14 ans révolus, mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs, jusqu'à la 60e année commencée. Ne vous scandalisez pas si je ne jeûne pas. Canon 1253, la conférence des évêques peut préciser davantage les modalités d'observance du jeûne et de l'abstinence, ainsi que les autres formes de pénitence, surtout les œuvres de charité et les exercices de piété qui peuvent tenir lieu en tout ou en partie de l'abstinence et du jeûne. La conférence des évêques français a voté lundi 29 octobre 1984 quelques dispositions concernant le jeûne et l'abstinence. Bien que non encore promulguées officiellement, il n'est pas inutile de les connaître et de les suivre. Alors, quelques applications. Tous les vendredis de l'année, en souvenir de la passion du Christ, ils doivent manifester cet esprit de pénitence par des actes concrets, soit en s'abstenant de viande ou d'alcool ou de tabac, soit en s'imposant une pratique plus intense de la prière et du partage. Pas obligé de mettre soit, on peut mettre et, hein, bon, bien. Pendant le temps du carême, le mercredi des cendres, jour du commencement du carême, et le vendredi saint, jour de la mort du Sauveur, ils s'abstiennent de viande. Ils jeûnent en se privant substantiellement de nourriture selon leur âge et leur force, et réservent un temps sérieux pour la prière. Les vendredis de carême, ils s'abstiennent de viande s'ils le peuvent. Donc ça, c'est général. Je vous dis ça, c'est parce que les bons chrétiens, aujourd'hui, ne savent plus. Et ils interrogent tout le temps. Donc, vous pouvez très bien être interrogé, et donc vous devez savoir ce que vous devez leur dire. Parce qu'il faut le rappeler. Il faut rappeler que, de fait, la question, même si on a simplifié certaines choses ou assoupli, l'esprit du jeune demeure. Alors, pour nous, hein, pour nous, puisque ça commence dès demain, on reprendra ce qu'on a dit au point de vue liturgique, je crois que c'est bien, le psaume 50 à genoux, au début de l'office de l'aude. Les vigiles, en plus du samedi au dimanche, dans la nuit du jeudi, c'est-à-dire au fond, deux nuits, si vous voulez, où l'on récite les vigiles. Ce qui n'empêche pas ceux qui sont poussés par l'Esprit Saint et qui le peuvent au point de vue de leur santé, de continuer la prière de nuit. Il faut bien vous dire qu'il y a tous les jours des frères qui prient la nuit à la chapelle. C'est bon de le savoir. Je ne dis pas pour que tous se lèvent, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas le faire. Mais c'est bien de savoir que de fait, il y a cette prière qui se fait tous les jours. S'il y en a deux de la communauté, c'est toute la communauté. Donc toute la communauté prie toutes les nuits pour que de fait la ferveur se maintienne. Je crois ça tellement important. Et je crois que pour nous, ça doit être ça le carême. Hein. Ça doit être un temps de ferveur. Vous savez bien ce que saint Jean Climiac dit. Un novice qui n'est pas fervent n'est pas un novice, il n'a qu'à partir. Saint Jean Climiac qui dit ça. La ferveur, c'est l'attitude normale du noviciat. Alors quand on est toute sa vie novice du Saint-Esprit, on doit être fervent toujours. La vie monastique, la vie religieuse réclame de nous cette ferveur. Vous savez comment saint Thomas définit la ferveur? La ferveur, c'est que sous le souffle de l'Esprit Saint, nous puissions faire des actes de charité qui implique la plénitude de la charité que nous avons. Autrement dit, nous ne faisons pas des actes à moitié, mais nous faisons des actes avec une volonté d'aimer le plus que nous pouvons, en suppliant l'Esprit Saint de nous faire aimer plus. C'est ça la ferveur. La ferveur, au fond, c'est se mettre dans la croissance de l'amour. Et vous savez le fameux exemple que prend saint Thomas, c'est un exemple merveilleux, on voit saint Thomas devant sa casserole, en disant, c'est l'eau qui bout. Alors le couvercle se lève. Une charité fervente, c'est une charité qui dépasse les normes de notre prudence humaine. Ce n'est pas la prudence qui dirige notre vie, c'est la charité, intérieurement. Alors les actes extérieurs sont sous la mouvance d'une prudence informée par la charité, donc une prudence divine, sous la motion du don de conseil. C'est très important de se rappeler ça, parce que très vite on s'habitue. Et on tombe dans des ornières. On se fait sa petite vie, vous savez, sa petite vie mondaine, à sa manière. Et je crois que ça, c'est tout à fait contraire à l'esprit religieux et à l'esprit monastique. Et pendant le temps de carême, ça doit être ce moment, pour tout chrétien, mais alors a fortiori, pour ceux qui se donnent totalement au Christ, et qui veulent être totalement donnés au Christ. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, hein, d'une ardeur extraordinaire pendant les trois premiers jours de carême, puis le quatrième jour, on vient à pleurer chez le père maître ou chez le père prieur en disant « je peux plus, je peux plus ». Non. Il faut une croissance pour tenir, mais tenir avec la grâce de Dieu. On ne tient qu'avec la grâce de Dieu. Il ne faut pas se dire « je vais aller lentement pour être sûr d'arriver jusqu'au bout ». Non, il faut tout de suite commencer avec une grande ferveur. Et demain, le mercredi décembre, doit être un jour de conversion pour nous tous. On va lire les textes que vous connaissez bien, qui nous rappellent que c'est la conversion qu'il faut. Donc voyez ce petit psaume, ou ce grand psaume 50, hein, que nous devons tous aimer beaucoup. C'est bon que chaque jour du carême, nous le disions du fond de notre cœur, en suppliant l'Esprit Saint de nous convertir, et que nous essayions, dans la mesure du possible, je ne demande pas à tous de se lever pendant le temps de carême, mais les vigiles, si c'est possible. Au point de vue du jeûne, là encore, on donne quelques règles générales. Hein. Comprenez bien qu'il faut régler ça individuellement et personnellement avec le Père Maître pour les novices, avec le supérieur, le prieur pour les autres. Il ne s'agit pas de faire des jeûnes excessifs sans demander de permission. Alors ici, c'est pour tout le monde. Le mardi et le vendredi. Et demain, exceptionnellement, le mercredi. Petit déjeuner, uniquement boisson, puis pluie et du pain sec. N'est-ce pas? Pas de beurre, pas de confiture. Hein? C'est du reste bien de temps en temps de s'en passer. Hein? C'est bon, parce qu'il y en a beaucoup qui n'en prennent pas, vous savez, dans le monde entier. Alors quand on s'habitue trop à avoir son petit déjeuner, hein, un petit peu trop, on pleure s'il manque du beurre ou s'il manque de... Non, non, faut... Comme les soldats de Gédéon, hein, un peu de liberté dans ce domaine-là. Donc de temps en temps... Alors ici, le mardi et le vendredi, alors on enlevera, on ne laissera pas le beurre devant vous. Ni la confiture, parce que c'est pas parce qu'on compte pas sur votre volonté, mais c'est parce que c'est mieux, c'est plus édifiant. Alors le au repas de midi comme d'habitude, le soir une soupe, une bonne soupe, vous savez la soupe de la semaine, toute la semaine on récolte des tas de choses dedans, une bonne soupe, quelque chose de bien. Et un plat à la disposition de ceux qui le veulent. On sonnera après la soupe. Pour que ceux qui désirent prendre un peu plus puissent le faire en toute liberté. Donc voyez, c'est pas tellement la question de la nourriture. Puisqu'on pourrait dire d'une certaine manière, si les gens du monde venaient chez nous, ils diraient « bon, on jeûne tous les jours, d'une certaine manière, pas le petit déjeuner ». Mais, c'est vrai, on peut dire que... Alors, mardi et vendredi, vous savez bien, la Très Sainte Vierge demande la pénitence. Elle le réclame. Je ne fais pas seulement allusion aux apparitions actuelles, hein, c'est d'une façon générale, Marie l'a toujours demandé. Récréation facultative le mercredi. Certains ont demandé que le carême soit un grand moment de silence, un grand moment de retraite, comme le peuple d'Israël dans le désert. Mais je suis tout à fait d'accord. Donc, récréation facultative pendant toute la semaine. Celui qui ne veut pas aller aux récréations peut très bien ne pas y aller, si il peut consacrer un peu plus de temps à la prière ou au travail. Ça dépend du souffle de l'Esprit Saint. Il n'y aura que la récréation du dimanche. Donc, le dimanche ne faisant pas partie du carême, hein, vous savez bien. Les dimanches sont les jours du Seigneur, ça ne fait pas partie du carême. Il ne faut pas se mettre à jeûner le dimanche. Hein. Mais ne vous rattrapez pas non plus le dimanche. Vous en avez des réserves pour toute la semaine, le dimanche. Le goûter en silence. Alors, ce qui est le plus difficile, mais ça, alors, je le réclame avec force, régularité aux offices, régularité au lever à 6 heures, qu'on puisse, pendant tout le temps du carême, être tous présents à 6h30. Sauf vraiment ceux qui ne peuvent pas le faire et que les médecins ont demandé expressément au père maître et aux prieurs de faire attention. Autrement, tous les autres, je crois que c'est bon. Un bon coup de fouet, vous voyez. Un peu de ferveur s'y remettent tous, avec la plus grande ferveur, pour le lever, pour les offices. Alors vous voyez, par le fait même, le soir, ceux qui ont besoin de dormir et qui doivent se lever à 6 heures, ne pas faire de bruit. Tout de suite après compli ou après les conférences. Rentrer avec le plus grand silence qui soit. Et je rappelle du reste, parce que ça fait partie de notre ascèse, vous savez bien, c'est dans notre règle, le point de vue du silence, pendant le temps du carême, doit être le plus grand possible. Ça, je crois qu'il faut tous faire grande attention à cela. Et c'est bon de se le rappeler. Donc, si quelqu'un vous parle, vous avez parfaitement le droit, en bonne charité, de lui faire silence et puis d'aller, si vous êtes ici en bas, dans un parloir, si vous êtes en haut, dans une salle, pour ne pas parler dans les couloirs. Je crois qu'il faut être très, très strict là-dessus. Ce n'est pas du formalisme, vous voyez. C'est une exigence de volonté de maintenir en nous un silence intérieur. Quand il y a un grand silence intérieur, on n'a pas envie de parler. Et le silence intérieur, vous savez, il provient du fait même qu'on désire aimer. Alors la grande exigence aussi du carême, c'est la joie. L'Église nous rappelle toujours, hein, ça fait partie de notre manière de faire pénitence. Parfumez-vous la tête. Alors, on ne va pas vous donner un parfum spécial, mais on vous demande que le Saint-Esprit soit là pour vous donner cette joie. Jésus est plus présent pendant ce temps du carême. Pour nous. Et donc, il doit y avoir une grande joie. Tu restes d'une façon générale. Je crois qu'il faut maintenir une très grande joie. Les uns par rapport aux autres. Évidemment, il peut y avoir des moments où on souffre particulièrement. Et quand on souffre particulièrement, quelquefois, ça se voit, ça s'exprime, c'est forcé. Alors, très bien, on prie pour ceux qui souffrent. Et on ne peut pas toujours arriver à dominer, c'est sûr. Mais autant qu'on le peut, il faut s'efforcer d'avoir une joie qui s'exprime et qui se manifeste, parce que nous en avons tous besoin. Ça nous aide. Rencontrer des figures un peu joyeuses, qui ne soient pas trop cadavériques, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai, c'est un peu gênant. Parce qu'alors on croit qu'il faut faire la même chose pour compatir. Alors vous voyez, ça gagne, et puis alors tout le monde... Non, il faut être dans la joie, parce qu'on est aimé. On est aimé de Jésus, on est aimé de Marie. C'est la chose la plus grande qui soit. aussi un effort pendant le temps de carême d'une grande unité. D'une grande unité. Vous voyez, le carême nous fait vivre le mystère du désert, la grande spiritualité du désert. Or, vous savez que quand on est au désert, le démon est particulièrement présent. Alors, il faut bien comprendre que pendant le temps de carême, le démon va rôder plus. Et la conséquence, quand le démon rôde, c'est qu'on se met à se parler. On dit ce qui ne va pas. Je vous ai déjà dit. Je comprends très bien qu'il y a des moments où c'est plus lourd, qu'on aille trouver le Père Maître, si on est novice, qu'on aille trouver le prieur ou moi-même, si c'est dur. Mais pas entre vous. Alors, si vous vous mettez à vous parler, il y a un murmure qui passe. Et le murmure divise, toujours. Alors, je crois qu'il faut faire cet effort. Ça fait partie de la ferveur, du reste. La ferveur consiste à vouloir vivre pleinement, donc cette volonté du Père sur nous. Et cette volonté du Père sur nous veut qu'il y ait entre nous une très grande unité. Une unité de plus en plus grande dans le cœur de Jésus et dans le cœur de Marie. Unité qui doit, puisque de fait, c'est le mystère de l'œcuménie, ce que nous devons vivre dans une très grande densité, les uns par rapport aux autres. Si nous devons être dans l'Église des sources de prière, d'amour, voyez bien que toute petite déviation de la source a d'immenses conséquences. De sorte qu'il faut essayer de vivre cette charité fraternelle, les uns envers les autres, dans une très grande intensité d'amour. La ferveur dans la charité fraternelle. Et la ferveur dans la charité fraternelle réclame cette unité, où on voit en premier lieu ce qu'il y a de positif, et non pas en premier lieu ce qu'il y a de négatif. Demain, nous lirons ce passage de Joël, que nous devons tous aimer beaucoup. Et maintenant encore, oracle de Yahvé, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Déchirez votre cœur et non pas vos habits, et revenez vers Yahvé votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en fidélité et se repentant du mal. On sait s'il ne se ravisera pas, qui sait s'il ne se ravisera pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui une bénédiction, oblation et libation. Déchirez votre cœur, revenez à moi de tout votre cœur. C'est le temps de la conversion. Et on peut dire que vraiment, c'est cela qui revient constamment à travers tout ce temps du carême. Se convertir. Vous savez que dans les retraites, on dit ce qui est le plus difficile à convertir, c'est les curés. Ce qui est le plus difficile à convertir, c'est les religieux. Parce qu'ils croient qu'ils sont convertis. Alors c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et je me demande, quand le Seigneur dit, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que des quantités de justes qui continuent, s'il ne pense pas à des quantités de moines qui continuent de leur vie bien sagement, sans avoir envie de se convertir. Alors je crois qu'ici, il y a une nécessité pour nous. en face du Christ, mais très loyalement en face du Christ. Il faut se remettre en face de l'exigence première. Jésus nous appelle, comme Yahvé appelait Moïse au sein de la nuée. Et vraiment, Jésus nous appelle. Et durant ce carême, Jésus nous appelle, chacun d'entre nous. Il nous appelle pour que nous puissions aller vers lui, convertir notre cœur. Alors, dans la loyauté en face de Jésus, nous devons, durant ce carême, prendre un sens plus aigu de telle ou telle faiblesse qui est en nous, que nous connaissons. Ces fêlures psychologiques et qui quelquefois vont au-delà du psychologique et atteignent le point de vue moral. Ces fêlures au plan de notre volonté, nous avons de la peine à nous lever régulièrement. Nous avons de la peine à lutter contre telle ou telle difficulté, telle ou telle exigence. Ce sont des fêlures, tout ça. Nous le savons très bien. Bien, il faut que pendant le temps du carême, nous mettions ces fêlures en face du cœur de Jésus et de Marie et que nous demandions la grâce de nous convertir et de ne pas nous laisser emporter. Nous convertir en nous tournant totalement vers Jésus. Je crois qu'il faut, pendant ce temps du carême, regardez bien le terme du carême, hein, le mystère de la résurrection, en passant par la croix. Il faut que tout le temps du carême soit ordonné à cette attraction de Jésus crucifié. Nous laisser attirer par lui, c'est la seule manière de nous convertir. Pour ne pas nous convertir par nous-mêmes. Nous convertir par nous-mêmes, c'est vouloir nous convertir par des actes de volonté personnelle. C'est très bien chez les stoïciens. Chez nous, il faut plus. Il faut que ce soit l'Esprit Saint lui-même qui agisse en nous. Et nous devons lui demander. Et nous devons coopérer. Et plus l'Esprit Saint agit, plus nous devons coopérer à cette conversion intérieure. Alors pour chacun de nous, ça prend une modalité différente. Hein. C'est bien évident que pour chacun d'entre nous, il n'y a pas une conversion parce que c'est intérieur. Il n'y a pas une conversion qui est pour toutes. Il y a un petit règlement de carême pour tout le monde. Mais la conversion du cœur, donc l'esprit du carême, la conversion du cœur, entrer dans le désert, entrer dans ce désert de Dieu qui est Marie, exige de nous cette conversion. Une conversion plus profonde que celle de l'année dernière, si nous étions déjà là l'année dernière. Conversion plus profonde que celle que nous avions vécue au carême de l'année dernière, si on était encore in seculo. Une conversion plus profonde, c'est-à-dire faire que toute notre volonté soit attirée par Jésus. Et vous voyez, c'est là où je dirais que pour nous, nous ne pouvons pas vivre ce mystère de conversion sans supplier l'Esprit Saint et la Vierge Marie d'entrer dans une oraison plus divine, plus profonde. Pendant ce temps du carême, donnons davantage de temps à la prière. Donnons davantage de temps à l'oraison. Ceux qui se lèvent la nuit, c'est très bien. Ceux qui ne se lèvent pas la nuit, mais qu'ils essaient le soir, avant de s'endormir, de donner un petit moment de silence et d'oraison, en plus de l'oraison du matin et du soir, juste avant le repas, essayez avant de s'endormir. Je crois que c'est nécessaire pour nous tous. Nous ne pouvons être vraiment du Christ et vivre donc l'attraction de la croix. Puisque seuls ceux qui vivent de cette attraction de la croix sont vraiment du Christ. Nous ne pouvons vivre de cette attraction de la croix que si en nous, cette soif de prière intérieure, d'oraison, de contemplation. Il faut que nous ayons ce très grand désir. Et vous voyez, ça doit se renouveler constamment durant l'année. Et se renouveler constamment durant l'année. Et le temps de carême est un temps de grâce pour ça. Dieu nous attend. Il nous attend. Et facilement, vous savez bien, il y a des fléchissements. On est parti avec un grand désir, et puis au bout de 2-3 mois, 4-5 mois, ça faiblit. On a laissé le doute entrer dans notre cœur. Toujours comme ça que fait le démon. On a laissé le doute entrer dans notre cœur. On a dit, oh non, c'est pas fait pour moi, ça. Nous sommes faits pour le Christ, avec l'absolu du Christ, l'absolu de son amour. Nous sommes faits pour cela. Et toute notre vie religieuse est faite pour ce don plus absolu à Jésus. Et ceci, ça ne peut se faire que si nous vivons en acte son amour. Si nous ne vivons pas en acte son amour, on ne peut pas, c'est impossible. Parce qu'alors ça devient du formalisme, ça devient du stoïcisme, ça devient des coups de volonté qui tiennent un certain temps, mais qui ne sont pas notre vie. Il faut que ce soit notre vie, où on s'est entièrement engagé et où on veut s'engager de plus en plus pour nous laisser être attirés par Jésus, pris par lui, entièrement donné. Il faut demander cette grâce, c'est très important. C'est la seule manière, vous voyez, d'entrer vraiment dans cette ferveur. Elle vient du Saint-Esprit. Et elle est intérieure, et elle doit saisir notre cœur. Et c'est ça, le fruit de la conversion. Le fruit de toute conversion, c'est d'être de plus en plus vulnérable à l'appel de Jésus comme époux. C'est la jalousie de l'époux. C'est ça qui nous permet de vivre avec ferveur. C'est de vivre de cette jalousie de l'époux qui nous attire totalement, qui nous veut totalement à lui, alors il n'y a plus rien en dehors, il n'y a plus de problème de se poser, est-ce que je peux faire ça? Non, on est totalement donné. Et plus on est totalement donné à Jésus, plus toutes les choses qui avant étaient pour nous nécessaires tombent. On fait tout dans la lumière du Christ. Puisque le Christ crucifié est notre sagesse. Et c'est dans la lumière du Christ que nous devons essayer d'élaguer dans notre vie actuelle, tout ce qui est secondaire. Le temps de carême doit être une grande retraite, un temps d'une ferveur très particulière, et donc élaguer tout ce qui est secondaire. pour ça que certains d'entre vous auraient voulu aller à Montmorin pendant le temps de carême. Je leur ai demandé de faire leur carême ici. Parce que je crois que si ceux qui veulent vraiment entrer dans le désert pendant ce temps de carême s'en vont en dehors, alors la communauté n'aura plus cette ferveur qu'elle doit avoir. Il suffit qu'il y en ait 10 qui veulent cette ferveur pour que tout le reste suive. Alors je ne vous demande pas de faire un petit peloton, n'est-ce pas ? On mettra le maillot jaune tous les jours à celui qui a été fidèle, ce n'est pas ça qu'on fera, mais on veut cet aspect-là, cet aspect sportif du Saint-Esprit, il ne faut pas l'oublier. Il y a cette chose-là, jusqu'à 45 ans, vous avez le droit d'être sportif pour le Saint-Esprit. Et il faut l'être. On est des athlètes du Saint-Esprit. Et il faut avoir cette espèce de générosité, de don total, qui fait qu'on désire toujours aller plus loin. Et celui qui est fatigué d'avance, il sera fatigué toute sa vie. Ce sont pendant les années de noviciat, pendant les années d'études, où on agrandit sa capacité d'aimer. On agrandit sa capacité de désir de la vérité. On agrandit sa capacité de générosité. Et c'est ce que le monde d'aujourd'hui a besoin. Il n'a pas besoin de moines renfermés sur eux-mêmes et un certain formalisme. Le monde a besoin de chrétiens totalement donnés. Et ça ne trompe pas, ça. Mais totalement donnés. Et la vie monastique, pour nous, c'est justement ce don absolu qui doit se faire. Alors c'est vrai, on est tous à se dire, c'est pas encore fait, non, c'est sûr, c'est pas encore fait. Mais ayons le désir de le faire. Ayons le désir de faire. Ayons le désir d'aller plus loin que ce que nous faisons jusque maintenant. Pour arriver à ce que la taille du Père se fasse pleinement et totalement. Mais toute conversion implique la taille du Père. Autrement, ce ne serait pas une vraie conversion. Alors, la taille du Père, c'est dans tel ou tel domaine. Oui, nous aimons mieux certaines lectures un tout petit peu plus faciles. C'est facile de prendre des lectures plus faciles. En disant, moi je suis poète, que voulez-vous ? J'ai absolument besoin de ça tous les jours. Attention, c'est peut-être vrai, mais il y a peut-être une exigence de prière plus grande. Alors si le temps que vous donniez à telle ou telle lecture plus facile, vous le donniez à la prière, pendant le temps de carême, c'est peut-être ça que Dieu vous le demande. Nous ne sommes pas des étudiants, comme on en voit en Sorbonne ou à Lyon, on n'est pas des étudiants. On est donné au Seigneur, et entièrement donné au Seigneur. Et le Seigneur nous demande d'étudier. C'est tout à fait différent. Et le Seigneur nous demande un travail intellectuel, un travail de l'intelligence, au point de vue philosophique et au point de vue théologique. Dans une recherche de vérité, mais on n'est pas des étudiants, au sens fort. On est beaucoup plus que ça. Et ça, c'est très important de se rappeler ça. Parce qu'on tombe facilement, vous savez, dans cette habitude. Alors, il faut, pendant le carême, rectifier notre attitude profonde et ne pas garder des mœurs d'étudiants avec un certain dilettantisme. C'est le propre des étudiants, d'avoir un certain dilettantisme. Je vous ai déjà dit, je crois que le Saint-Esprit n'aime pas beaucoup le dilettantisme. Et je crois que quand le Saint-Esprit nous prend et qu'il veut nous prendre, il veut que nous soyons entièrement donnés. Alors, il faut comprendre la taille du Père. Et la taille du Père, c'est chacun d'entre nous qui devons la comprendre et la saisir. C'est, je crois, le sens profond de cet appel. Déchirez votre cœur et non pas vos habits. Revenez vers Yahvé, votre Dieu. car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en fidélité et se repentant du mal. Il faut donc que nous nous ayons pris par cette miséricorde, cette surabondance de l'amour, cette jalousie de l'amour. Il faut être pris par cette jalousie de l'amour. Le lien avec Jésus, c'est cette jalousie d'amour. Et prenez dans l'évangile de demain de saint Matthieu et lorsque vous priez, vous ne serez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des places afin de se faire voir des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont touché leur salaire. Pour toi, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est présent dans ce qui est secret. Et ton Père qui voit dans ce qui est secret te le rendra. Cette exigence d'intériorité, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'oraison, et d'une intériorité toujours plus grande. Il doit y avoir un abîme de profondeur dans notre cœur, qui est l'abîme même de la profondeur de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, au plus intime de nous-mêmes. Et notre prière doit rejoindre cette intimité profonde de Dieu avec nous et de nous avec Dieu. Alors demandez à Marie de vivre ce mystère du carême avec beaucoup de joie, sans aucune crainte, parce que Dieu sera là. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir, hein. Et je crois que si on se donne avec une très grande générosité, il y a beaucoup de joie. C'est la plus grande joie qui soit. Même si c'est un petit peu dur, même si c'est exigeant, il y a une très grande joie à se donner et d'aller jusqu'au bout de ce don avec Marie. Pour que, de fait, nous ne perdions pas de temps. Parce que je crois qu'on n'a pas le droit de perdre du temps. Aujourd'hui, tous les événements vont tellement vite qu'on doit être toujours prêt à ce don total. Et au début de ce carême, il y a un appel. Un appel très profond de Jésus crucifié, de Jésus qui se donne et qui se donne jusqu'au bout.
Amen.
Saint-Esprit, par l'intercession du cœur douloureux et immaculé de Marie, vous bénisse et vous garde à jamais.
Amen.